Jean-Luc Outers, Belgique.
J'ai l'impression que toute notre littérature est traversée par ce problème. Qu'est-ce que c'est écrire en français? Alors il y a à la fois chez nous la plus grande codification de la langue a été faite en Belgique. Il y a les grammairiens, enfin, on les connaît, Grévis et autres professeurs Hans, etc., qui ont essayé de faire tous les dictionnaires de la langue que l'on connaît. Et alors il y a eu toute une série de traditions, un peu plus marginales, mais qui a quand même son importance, d'écrivains qui ont essayé de triturer la langue, de la broyer dans tous les sens. On en parle beaucoup actuellement parce qu'il y a une exposition qui circule un peu partout actuellement qui s'appelle « Les irréguliers du langage ». Et cette exposition montre qu'effectivement, il y a depuis le début du siècle une série d'écrivains dans toutes sortes de traditions qui n'ont eu de cesse que de se battre avec la langue, que de lui donner des coups. Bon, il y a évidemment eu les surréalistes, il y a eu, il y a eu des gens comme Michaud, il y a eu toute une série même de poètes contemporains qui continuent à faire ce travail-là. Et donc, je trouve ça... il me semble que ça, c'est quelque chose qui est caractéristique chez nous, c'est que la langue française y joue le rôle de langue officielle sur le plan de l'écriture, mais en même temps, il y a comme une sorte de sentiment de culpabilité ou de mauvaise conscience, de guerre, peut-être, en certains cas, qui fait que voilà, on veut régler ses comptes à la langue. Et puis alors, il y a quand même, moi je suis frappé de voir que on a quand même chez nous un certain nombre de mots, d'expressions, on appelle ça des belgicismes, qui sont parfois des fautes de français.
Voilà. C'est perçu comme des fautes de français.
Oui, mais dans certains cas, ce l'est. Bon, par exemple, on dit souvent savoir au lieu de pouvoir. Ça, c'est des résidus, je crois, de certains patois. Mais alors, il y a aussi des mots qui nous sont propres et qui sont, je trouve, assez beaux et qu'on a parfois du mal à imposer. Enfin, c'est notamment mon cas, j'ignorais par exemple, enfin, je crois que c'est le cas souvent, quand on pratique une langue, on pense que sa langue est universelle et quand on publie un livre, on ne se rend pas compte que tout d'un coup, certains mots sont incompris. Alors moi, par exemple, lorsque j'ai publié un roman en France, je me suis tout d'un coup rendu compte avec ce problème de centralité, que la langue est la langue de l'éditeur, en réalité, qu'on a beau vouloir imposer ces mots, ce n'est pas toujours facile. Alors, je me rappelle, j'étais tout le temps au téléphone avec la correctrice de l'éditeur qui me disait, qu'est-ce que c'est que ça? Ça existe chez vous, par exemple, un mot... qui me semblait évident, par exemple, cornet de téléphone, je ne sais pas si on utilise ça en Suisse ou au Québec, mais il paraît qu'en France, ça n'existe pas. Alors la dame, la correctrice, me disait, mais vous avez d'autres téléphones chez vous, en Belgique, ce n'est pas les mêmes téléphones que chez nous. Moi, je disais, mais pourquoi? Mais cornet de téléphone, ça n'existe pas. Alors, et je dis, comment on dit chez vous? Ben, chez nous, on dit combiné. Alors là, j'ai dit, mais non, ça c'est grotesque. Laissons, s'il vous plaît, laissez cordée de téléphone.
Elle vous l'a laissé.
Et alors finalement, il a fallu se battre. Je n'ai jamais vu cette femme, une femme de chez Gallimard, et je l'imaginais environnée de dictionnaires. Derrière elle, il y avait des armoires remplies de grammaire et de dictionnaires. Elle me disait, mais non, regardez, ça, j'ai beau fouiller tout, même vos propres dictionnaires belges, il n'y a pas ça dedans, etc. Enfin, j'ai eu plusieurs exemples de ce genre, ce qui fait que maintenant, je suis très prudent et... On a tendance à s'auto-censurer à cause de ça. Et je pense que là, il y a une différence. Par exemple, si on prend René de Pestre, lui, il annonce la couleur à la première ligne, c'est-à-dire que le correcteur de chez Gallimard, j'imagine, ne lui pose pas ces questions-là, parce que de Pestre dit, moi, j'ai ma langue, elle m'est propre, et allez vous faire foutre avec vos dictionnaires. C'est en gros ce qu'il dit. Tandis que nous, qui sommes censés parler la même langue, on est obligés de s'aligner. Voilà.
Louis Caron, Québec.
Où ça a été le plus spectaculaire, c'était pas encore au Seuil, c'était chez Lafont. Et c'était comme ceci, je disais que dans l'enthousiasme, ils avaient écarté les meubles dans la cuisine, ils avaient repoussé tout ce qu'il pouvait y avoir, et ils avaient dansé toute la nuit sur le grand prélard fleuri. Et ma correctrice m'avait renvoyé dans mes épreuves la suggestion de dire qu'ils dansaient sous le grand prélard fleuri. Ce qui constitue à mes yeux une acrobatie assez invraisemblable. Puisqu'un prélard, pour nous, c'est un linoléum, c'est un instrument qui est étendu sur le plancher. Je me suis gardé, comme d'autres, d'aller voir dans le dictionnaire. Et j'ai laissé faire la vie. Et beaucoup plus tard, dans Melville, sans doute dans Moby Dick, j'ai découvert que lui dansait sous le grand prélard, sur le pont de son navire, et j'ai compris là quelque chose d'essentiel. C'est-à-dire que la langue québécoise, que nous avions importée donc de la France des années 1600 quelque chose, 40 peut-être, à cause de la conquête anglaise en particulier, s'était figée dans l'éloignement, de telle sorte que nos réalités géographiques ne s'étaient jamais transmises jusque de ce côté-ci de l'Atlantique. Il est donc probable qu'au départ, quelqu'un a pris un prélard de navire et l'a posé sur un plancher pour empêcher le froid de pénétrer dans la maison, et que depuis ce temps-là, on danse dessus, nous. Tout est permis. Il n'y a pas d'interdit en écriture, surtout. C'est peut-être l'endroit ultime où tout est possible et tout est permis. Il n'y a pas de règle, et mon point de vue ne concerne que moi. On s'entend là-dessus. D'autre part, j'ai pas longtemps, mais j'ai quand même, au début de ma carrière d'écrivain, été confronté à la grande distance qui existe au Québec comme ailleurs, mais en ce qui me concerne au Québec, entre l'oralité et l'écriture. De telle sorte que pendant un bon moment, je me suis demandé comment j'allais réussir à faire entrer de force notre oralité dans l'écriture. Jusqu'à ce que je me rende compte qu'il ne fallait pas le faire. Je pense que c'est Henri Gougaud qui a dit tout à l'heure, quand je parle et quand je compte, je parle et je compte, et quand j'écris, j'écris. Il y a une expression québécoise qui dit justement, de toute façon, ça n'a pas bien d'importance, parce qu'on parle pour parler. Peut-être que justement, on est en train de parler pour parler. Parler pour parler, au sens où ça n'a pas vraiment de conséquences, on peut dire ce qu'on pense, on parle pour parler. Moi, ce que je veux dire, c'est que je n'écris pas pour écrire. Au sens où je n'écris pas pour passer le temps, et je n'écris pas non plus le sens d'une mission, et je n'ai pas à transcrire dans ma littérature tout le destin historico-ethnographique de mes concitoyens. Et quand j'écris, je fais une œuvre d'art. Et quand je fais une œuvre d'art, je la fais avec les outils que j'ai à ma disposition et j'y mets les couleurs que je veux. La solution m'est venue d'un ami photographe qui un jour m'a dit, en lisant un de mes bouquins, le deuxième de ma production qui s'intitulait « Le bonhomme 7 heures » et qui, dans la première édition, comportait plus d'apostrophes et d'italiques que de mots normaux, puisque j'avais vraiment tenté d'en faire l'outil de transcription de l'oralité à l'écriture. Cet ami photographe m'a dit « Écoute, ben, mon petit Louis, il y a une chose que tu as oubliée. C'est que quand tu regardes dans une revue, par exemple, la photographie d'une voiture, ou quand tu vois une de mes photos que je fais, moi, d'un beau paysage avec un grand pont et une petite vache qui broute dans un pré en bordure de la rivière, rends-toi bien compte que la vache que tu vois sur la photo, elle a 3 mm ou 3 cm, mais qu'en réalité, ton esprit décode et te permet de voir dans ces 3 cm-là une vache grandeur nature. Et là, j'ai compris que pour transcrire l'oralité dans l'écrit, il ne faut pas la mettre grandeur nature, l'oralité, il faut l'écrire proprement et en français, en faisant confiance aux lecteurs et aux lectrices qui entendront ce qu'il faut y entendre.
Avec des problèmes de transcription quand même, pour rendre l'une dans l'autre.
Oui, mais je pense que chaque écrivain a son coffre d'outils à lui, et chaque écrivain bricole ses ajustements de plomberie et d'électricité à sa façon, sans qu'il n'y ait de code ni de normes.
Thierry Aumont, Belgique.
C'est vrai qu'il y a une dégénérescence, même à la limite, du wallon ou des wallons. Ça, je suis tout à fait prêt à le reconnaître. Mais il y a à la fois un usage du patois qui ne permet plus, en tout cas, de tout exprimer, mais qui exprime encore beaucoup. Il y a, même dans mon milieu professionnel, je suis bibliothécaire à Charleroi, même entre nous, donc qui sommes des gens qui ont fait certaines études, qui lisent ou qui sont censés lire beaucoup, qui sont attentifs à la vie culturelle ou qui sont censés l'être, il y a un usage du wallon tout à fait quotidien. Il y a certaines choses qu'on dira de préférence en wallon, mais de là à à tout exprimer, non. Donc ça a plus davantage trait à la vie émotive, je dirais, à tout ce qui est instinctif, aux réactions instinctives. Cela se dira de préférence en wallon. Et je crois que moi, je suis un des défenseurs du wallon, non pas pour que le wallon prennent la place du français. Le wallon et le français n'ont jamais été véritablement concurrents. Je voudrais tout de même ajouter une petite remarque, c'est qu'il y a une littérature wallonne très très abondante. Et je ne sais pas si c'est vrai, je n'ai pas les moyens de le contrôler. Je pourrais avoir les moyens de le contrôler, mais disons que ça m'importe assez peu. Le wallon serait le dialecte qui a la production littéraire la plus importante. Et une production littéraire qui est énorme, le théâtre wallon a un succès fou. Les écrits en wallon sont très très abondants. Et il y a tout un mouvement, ce n'est pas un mouvement, c'est spontané, d'utilisation du wallon au théâtre, dans la poésie, dans la chanson, avec un renouvellement des thèmes chez de jeunes auteurs. Ça, c'est quelque chose de tout à fait nouveau, parce qu'à un moment donné, on s'est dit, oui, le wallon va être plus perpétué que par ceux qui sont encore là et qui vieillissent, mais il n'y a pas de relève. Or, maintenant, il y a des jeunes de 20 ans qui écrivent en wallon. Donc, je crois que c'est important. Et je suis un des défenseurs du wallon dans ce sens que je pense que c'est notre seul moyen à nous de, à la fois d'enrichir et de préserver la langue française. La préserver dans ce sens que nous devons continuer à parler le français comme nous l'avons fait, c'est-à-dire avec dans un rapport de liberté. On dit souvent que par rapport, par exemple, aux Provençaux, pour les Wallons, il n'a pas fallu d'ordonnance de Villers-Cotterêts pour imposer le français comme langue officielle ou comme langue administrative, langue du pouvoir. Ça a toujours été le français. Donc là, il n'y a pas de concurrence. Mais il faut que notre rapport avec la langue française parte de nous réellement et ne soit pas un français standardisé, qui nous appauvrirait et appauvrirait la langue française en même temps.
Thierry Aumont, quand vous écrivez Les Peupliers, par exemple, qui est un livre qui se lit pour le lecteur francophone comme du français, est-ce que vous avez l'impression qu'il est imprégné de wallon ?
Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Il est imprégné de wallon, en tout cas, dans l'esprit, tout à fait. J'ai mis quelques phrases en wallon dans mon livre, je n'ai pas mis de notes en bas de page. Je dois dire que ça s'y prêtait bien parce que le narrateur dit, on parle souvent en Belgique du bilinguisme, du pseudo-bilinguisme, parce qu'en fait il n'existe pas en Wallonie. Flamand et français, mais il y a un bilinguisme chez nous qui est le wallon et le français. Les wallons, en fait, la plupart sont bilingues. Et le narrateur prend comme exemple, si le flamand ne pourra pas comprendre s'il vient en Wallonie, un type qui dit, je ne sais plus, je vais te montrer une sacouée, je vais vous montrer quelque chose. Mais je n'ai pas mis de notes en bas de page. Ça, c'était encore plus facile puisque il y avait, je devais rendre une certaine incompréhension de cette langue-là. Donc là, le problème ne se posait pas. Mais il y a, par rapport à Jean-Luc Outers, qui a eu des problèmes avec la correctrice de Gallimard, je n'en ai jamais eu personnellement. J'ai eu simplement, sur mes épreuves, parfois, des suggestions. Je me souviens que j'avais employé l'expression dans Les Petits Prophètes du Nord, « l'eau quitte ». Et on avait simplement mis dans la marge l'eau bouillie, point d'interrogation. Alors j'ai dit non, l'eau quitte. Je dis c'est peut-être un wallonisme, c'est possible. Il y a au musée de la vie wallonne à Liège une enseigne, eau quitte à toute heure. Mais dans ce cas, c'est de cette façon-là que je le vois, c'était un enrichissement parce que donc l'histoire se passe en Laponie. Les deux personnages là font chauffer de la neige, ils n'ont pas de nourriture, et le fait de faire cuire l'eau, puisque cuire théoriquement ne s'emploie que pour des aliments, le fait de dire au quid, c'était donner une sorte de valeur d'aliment à l'eau, qui n'est pas un aliment au sens strict, mais c'était le fait d'ajouter de la chaleur à cette eau remplissait un peu mieux l'estomac ou donnait l'impression de remplir mieux l'estomac. Donc c'était ça, c'est ce que j'appelle un enrichissement. Et je crois qu'il faut garder ses identités, ses particularismes, tout en ayant, nous sommes des écrivains, donc ce souci de communication, mais on doit toujours à la fois malmener et féconder la langue française, autrement la langue française, elle ne sera plus rien.
David Plant, États-Unis.
Un franco-américain veut dire que je suis né dans une paroisse québécoise aux États-Unis, en Nouvelle-Angleterre, l'État de Rhode Island, la ville de Providence. Et là, je suis allé à une école française. Monsieur le curé ne parlait que français, ou québécois. Je dois dire québécois parce que c'était québécois, ce n'était pas français. Mon père est né au Québec. Il n'avait que 2 ans quand il est allé aux États-Unis avec ses parents. Sa langue maternelle était québécoise. Ma mère est née aux États-Unis, mais de descendance acadienne. Sa langue aussi maternelle était acadienne. Il y a, 35 ans, presque 40 ans que j'ai quitté la paroisse et mon français est un peu faible. Mais quand même, pour moi, ma langue maternelle était québécoise, québécois. Et ça, j'ai tout oublié. L'anglais, pour moi, c'est une langue étrangère parce que je n'ai pas la tradition anglaise. J'écris en anglais, mais c'est pour moi une langue étrangère que je dois crier. Et on me dit qu'en anglais, mon style est dans sa simplicité un peu conscient de soi-même. C'est un peu trop simple. Et c'est parce que je dois penser à tout ce que j'écris. Même en anglais, je dois penser à ce que j'écris au point de vue de grammaire, point de vue de tous les points de vue. Et comme ça, je trouve l'effet principal de ce que j'écris, c'est un silence, un sens d'espace qui vient de cette absence d'une langue maternelle. Et c'est ça qui m'a beaucoup influencé.
Mais le français non plus n'est pas votre langue,
non,
puisque...
Non, parce que ça, j'ai tout oublié, le québécois. Je me sentais complètement chez moi quand Mme Gauvin a dit « je suis tannée ». On avait des expressions comme ça chez moi. Et ma grand-mère ne parlait que français. Elle disait « je suis tannée » ou « vous êtes tannée » ou si on a employé des expressions québécoises, « ben » ou « pour nous ». Le mot catin voulait dire une poupée au lieu de ce que vous savez, ça veut dire. Mais ça, j'ai tout oublié. J'ai oublié, mais ça reste quand même. L'absence reste. Et je sens un écho de cette absence, mais c'est toujours là. Au point de vue de ma mère, la langue acadienne était tellement étrange que je me rappelle qu'une phrase... et je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, c'est « j'avions scrabé mes estepes et j'avions frondé le water sur le pâteau ». C'est tellement non. Bizarre que... Non, ça,
même
ça
Louis Caron ne comprend pas.
On a besoin de peut-être Anthony Maillet de la
traduire. Il nous faudra Anthony
oui, c'est exactement ça. mais c'est ça que je veux dire. tout simplement.
Quand vous rêvez la nuit, vous rêvez dans quelle langue?
Ah, ça dépend. Quand je suis tellement fatigué, québécois.
Je crois que c'est là votre langue maternelle.
Et quand ça m'arrive aussi, je ne crois pas en Dieu, mais quand ça m'arrive de parler, de dire quelques mots à Dieu, c'est en français. Parce que Dieu ne comprend que le québécois.
Oui, c'est bien connu.
Annelise Corbetti, Suisse.
Ce qui m'intéresse, c'est que je vois finalement chez chacun d'entre nous une espèce de tension positive et dynamique entre l'envie d'être fidèle à sa culture, à ses racines, et puis finalement la nécessité d'être compris le plus largement possible dans cette ère francophone qui théoriquement est quand même importante, puisqu'il y a 200 millions de personnes, théoriquement bien sûr, qui recoupe donc des réalités extrêmement différentes. Mais je crois que si on peut se comprendre, si on peut comprendre des expressions qui viennent justement de réalités fort différentes, c'est qu'à travers la langue, ces expressions sont d'abord nées d'une bonne logique, je dirais, populaire. Quand Rachid Mimouni dit « il est mon foie » de quelqu'un qu'il aime, on comprend immédiatement ce que ça signifie, tant pour nous le foie est un organe important et vital. Et je rassurais d'ailleurs Jean-Luc Outers, parce que chez nous, dans le canton de Neuchâtel, nous avons non pas le cornet de téléphone, mais la cornette. On ne dit même pas de téléphone, on dit la cornette, et pour nous, ça veut tout dire. Alors bien sûr, comme chacun d'entre vous et d'entre nous, je couvre aussi dans mon cœur des mots et des expressions régionales qui nous viennent tout droit de notre ancien patois, mort à peu près à la fin du siècle dernier, et qui était un patois de l'ère franco-provençale. Et il est évident que parfois, quand j'écris, bon, je parle effectivement d'intériorité, c'est-à-dire qu'en principe, quand on se parle à soi-même, on a un langage plus lent, plus différent, plus élaboré, peut-être que le langage oral. Mais il est clair que parfois me vient sous la plume, le plus naturellement possible, des mots tout droit issus de ce langage régional. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Eh bien, je vois que parfois, et le français, tout simplement, ne m'apporte pas un mot aussi précis que celui du patois, en tout cas en ce qui concerne la sonorité. J'ai ici peut-être deux exemples qui me viennent à l'esprit, que j'ai utilisés dans mes livres. Le mot « cycler ». Quand quelqu'un cycle, c'est non pas un mot français, on nous l'a dit, mais je ne trouve pas de mot pour parler d'un enfant qui cycle, donc qui crie extrêmement fort de façon aiguë, presque en trépignant, ou par exemple une hirondelle qui cycle, ce sont ces oiseaux qui se lancent en faisant des cris très spéciaux. Je ne trouve pas dans la langue française de mots qui me rendent ce service de rendre à la fois le mouvement et puis la sonorité. Moi, je travaille beaucoup en rebondissant d'un mot à l'autre, souvent, non pas seulement à cause de la graphie, mais de la sonorité des mots et des résonances que le mot va ouvrir tout autour de lui. Alors, cycler, je pense à un autre mot qui est le mot tiesser. On pourrait le remplacer effectivement peut-être par le mot s'affaisser. Mais quand on dit que quelqu'un tiesse, c'est vraiment tellement surprenant, c'est beaucoup plus brutal que le mot s'affaisser, qui est plus long. C'est vraiment les jambes qui lâchent, le corps qui lâche tout entier, nous tiessons. Hein. C'est donc quelque chose que je ne peux pas dire autrement. Je pense aussi à des réalités beaucoup plus terre-à-terre. Nous avons ici toutes sortes de sapins. Et Dieu sait si je ne pourrais pas dire, lorsqu'une branche de sapin est coupée, je ne pourrais jamais écrire « branche de sapin coupée ». Pour nous, c'est de la dard. Quant au fruit du sapin, c'est une pive. Et je ne verrais pas comment en parler autrement. Donc, il y a des réalités que je ne peux utiliser que comme elles sont, comme je les vis, moi. Parce que je le dis, certains mots ne sont pas aussi précis, pas aussi beaux en français que ceux de ma langue. Mais je crois que le frein que je mettrais, c'est effectivement au moment où le contexte ne permettrait plus vraiment à celui qui lit d'être entraîné naturellement et de remettre, d'englober ce terme régional dans le suivi de la lecture. Mais ce qui me paraît aussi intéressant, ça a été dit autour de cette table et personnellement, j'y tiens beaucoup. Je crois que chaque fois qu'on arrive à réinsérer un mot régional dans la langue française, c'est un enrichissement sûr de la langue. Parce que la langue, nous le savons tous, est une réalité vivante et nous devons contribuer à comme l'eau sur un tissu par capillarité, peu à peu imbibe tout le tissu. Je crois que ça, c'est aussi notre travail, puisque la langue est notre outil principal, de faire en sorte que la langue par capillarité s'ouvre à d'autres réalités de la francophonie.
Autour du thème « Écrire la langue », vous avez entendu Rachid Mimouni, Henri Gougaud, Anne-Marie Gara, Lise Gauvin, René Souenen et René Depestre, Jean-Luc Outers, Louis Caron, Thierry Aumont, David Plante et Anis Grobetti. Une production de la Radio Suisse Romande Espace 2, réalisé par Alain Maître et présenté par Isabelle Ruff.